débat du jour.
François Bernard.
Bonsoir, merci de nous accueillir à l'écoute du débat sur RFI. Ce samedi, demain, va s'ouvrir la session annuelle de l'Assemblée nationale populaire en Chine. Une réunion qui se déroule dans un contexte international déstabilisé, avec l'arrivée de Donald Trump à la présidence des États-Unis et les politiques protectionnistes qui s'imposent dans d'autres pays. La Chine fait figure de possible nouveau leader de la mondialisation. Sa démographie, sa puissance économique, son ouverture au monde, sa diaspora en font un candidat sérieux à la suprématie mondiale. Alors peut-elle s'imposer comme un chef d'orchestre dans le concert des nations? Les Chinois, nouveaux maîtres de la mondialisation, on va en parler avec nos deux invités. Je vous les présente tout de suite. Pierre Picard est docteur en géopolitique à l'université Paris 8, spécialiste de la Chine, expert international, auteur de nombreux livres dont « La Chine dans 20 ans et le reste du monde » et « La Chine, une menace militaire ?» Point d'interrogation, c'est aux éditions Favre. Bonsoir à vous Pierre Picard.
Bonsoir.
Et puis Zhang Lun est économiste, sociologue, maître de conférences en civilisation chinoise à l'université de Cergy-Pontoise. Vous êtes auteur de dizaines d'articles et d'ouvrages dont « La vie intellectuelle en Chine depuis la mort de Mao », c'est chez Fayard. Bonsoir Zhang Lun.
Bonsoir.
Alors, la Chine est déjà une puissance mondiale majeure, on est d'accord sur ce point. Est-ce qu'elle peut, est-ce qu'elle veut monter d'un cran? Quelles sont ses ambitions, Pierre Picard?
Alors, vous savez, quand il y a deux ans, on disait, bon, effectivement, la Chine est en train de montrer quelle est la première puissance mondiale. Les dirigeants, y compris beaucoup d'intellectuels, disaient non, surtout pas, on ne veut surtout pas être pour le moment la première puissance mondiale, dans le sens où nous pensons que nous avons encore énormément de réformes à faire et que ce n'est pas uniquement le PIB et la croissance qui font le bonheur d'un peuple et qui positionnent la planète comme étant leader mondial. Néanmoins, c'est vrai, les chiffres le montrent. En plus, la politique isolationniste de Trump vont faire globalement le jeu commercial de la Chine. Oui, la Chine est bien l'étoile montante actuellement et pour les années à venir.
Alors, quels sont les éléments tangibles de cette volonté manifeste?
Alors, cette volonté, eh bien, écoutez, en fait, elle est due quand même à l'organisation du parti tel qu'il est, qui est parfois critiqué, en tout cas tel qu'il existe en Chine, mais également grâce aussi à des leaders qui restent pragmatiques et qui adoptent des politiques de planification qui sont globalement réussies, même s'il y a ici et là, parfois, dératé. C'est toujours une ambition de construire à la fois, d'une part, le rêve chinois au niveau de l'économie, de la croissance, du bien-être, et même maintenant, on parle beaucoup d'environnement en Chine, mais également de sécurité avec les menaces de Daesh. Et puis, c'est l'ouverture, le contraire de Donald Trump, l'ouverture à l'international, avec notamment le très grand projet du président chinois de la nouvelle route de la soie du 21e siècle, qui devrait engendrer des milliards de dollars ou de yuan, en tout cas, en matière d'échanges commerciaux mondiaux.
Alors, on commence peut-être avec la même question, Zhang Lun. Est-ce qu'il y a une volonté en Chine? Pierre Picard semble dire que oui, mais pas vraiment. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Il y a cette volonté d'avoir de l'ambition sur le plan international?
Ah, c'est évident. De toute manière, c'est très évident. Mais le problème, c'est ça. C'est d'un côté, la volonté, c'est une chose. Le désir, c'est une chose. Mais de l'autre côté, la capacité, la réalité, c'est autre chose. Il me semble qu'il y a une grande tension à résoudre. Tant que la Chine ne peut pas résoudre cette tension, la Chine ne peut jamais prendre cette leadership numéro un du monde.
Quelle tension?
C'est quoi? C'est un côté, par exemple, où nous avons assisté ce discours de Xi Jinping, très libéral, au niveau de commerce international. Joue un, c'est très curieux, un leader du parti communiste jouer un défenseur de libre-échange à l'échelle mondiale. Ouais. Bon, et en même temps, à l'intérieur de la Chine, on assiste à une tendance de repli un peu en soi, se méfiant des étrangères, contrôle des entreprises étrangères, cette campagne est très dure vis-à-vis les médias, vis-à-vis les dissidents, tout ça. Bon, vous voyez, c'est de double discours, cette tension, et cette image que le parti montre au monde extérieur et aussi cette politique à l'intérieur, c'est au contraire de ce discours libéral vers vers l'Est. Cette tension, je crois, hein, tant que la Chine n'arrive pas à résoudre cette tension, je ne pense pas que la Chine peut un jour jouer un véritable leader du monde. Bon, même si la Chine, en s'appuyant sur ses moyens accumulés, peut continuer à croître ses influences sur le monde, ça, c'est sûr.
D'accord. Mais, voilà, bon. Alors, la puissance de la Chine, elle est d'abord, on va dire, économique. Est-ce que l'état de son économie aujourd'hui l'autorise à penser qu'elle peut accroître son influence, Pierre Picard?
Alors, la Chine, bien évidemment, et ce n'est pas en opposition avec ce que j'ai dit précédemment, veut accroître son influence, mais pas à n'importe quel prix. Autrement dit, pas sur les terrains notamment de rivalité géopolitique que l'on a pu apercevoir en Irak, en Iran, en Syrie et sur bien d'autres terrains comme l'Ukraine notamment. Ce que veut la Chine actuellement, c'est effectivement construire pas à pas, d'une part dans son aire régionale, mais également sur d'autres continents, une paix basée sur des échanges économiques qu'elle indique gagnant-gagnant. Autrement dit, des partenariats économiques avec les pays. Donc, ce que la Chine ne veut surtout pas, c'est d'une part, je dirais, renouveler des erreurs que certains autres pays ont fait auparavant, voire même certains, peut-être, leaders chinois auparavant, imposer sa méthode, mais s'inscrire dans un processus international où il y aura un consensus pour favoriser la paix et les échanges économiques. Et c'est là, justement, un petit peu pourquoi il y a une ambiguïté, j'ai bien ressenti chez mon interlocuteur, un questionnement par rapport à l'ouverture internationale, c'est que la Chine est en train de le bâtir, mais avec bon nombre de réserves pour ne pas, je dirais, se jeter dans le chaos du monde tel qu'il est, mais pour essayer de le changer pas à pas.
On a évoqué le contexte, on en parle encore. Pierre Picard, tout à l'heure, a parlé de Donald Trump, de la nouvelle donne aux États-Unis. Est-ce que l'arrivée de cette nouvelle administration américaine pose une menace ou au contraire libère un espace aux ambitions de la Chine sur la scène internationale, selon vous, Zhang Lun?
Moi, je pense que ça dit bon. Hein, ça dépend de comment la situation évolue dans les jours, même les mois, les années à venir. À ma connaissance, sur le premier coup, hein, la Chine a eu Pékin a quand même eu un petit choc à l'arrivée au pouvoir de Trump, parce que ils ont pas tout à fait prévu que ça. Hein. Donc, surtout, hein, ce discours très dur de la part de Trump vis-à-vis de Pékin, hein, sur tous les plans. Et donc, on observe très bien, hein, pendant une période, Pékin essaie de arranger un peu les choses, tester un peu la réaction de l'équipe, de l'administration de Trump. Et en même temps, hein, envoyer énormément de gens aller en Amérique, faire des enquêtes, rencontrer des gens. Récemment, je pense que d'après mes connaissances sur comment ça fonctionne ces systèmes, ils ont quand même établi certains rapports, certains plans vis-à-vis la politique que Trump peut appliquer vis-à-vis de la Chine. Donc, on est dans une période d'observation, voir comment Trump essaie de faire des choses. Vous savez pas que vous avez entendu ce genre de petits détails. C'est le premier président américain depuis des décennies que nous n'ont pas félicité pour le nouvel an chinois. Ok. Du coup, le Pékin est assez nerveux concernant cette affaire. Mais d'après ma connaissance, que l'ambassadeur de la Chine a rencontré le beau-fils de Trump à Washington. Après, Trump sort un truc, féliciter le fête de lune
le nouvel an, oui.
Voilà, non, c'est pas le nouvel an, ouais, la fin de nouvel an, ouais, tu vois. Et donc, et là, tout d'un coup, toute la propagande de Pékin mobilise la machine, a dit que Monsieur Trump a quand même félicité le, vous voyez, tout ce genre de, à travers ce genre de petits signes, ça montre que Pékin est dans une phase un peu assez hésitante, avec plein de doutes pour voir comment Trump va agir. Voilà.
Donc, la Chine, comme le reste du monde, se demande quelle va être la politique. Voilà,
c'est ça que je voulais dire, une chose par rapport à notre thème. Ça montre que le Pékin n'est pas si sûr de lui-même. Ouais. Ok, c'est pas ce pouvoir n'est pas si sûr de lui-même et vu la situation actuelle, on entre dans une période de, je dis pas crise, mais quand même de ralentissement économique assez considérable. Et comment gérer des affaires? Bientôt il y aura le 19e congrès du parti. La bataille politique, ça sera assez dur. Et tout ça. Donc si Trump qui arrive avec une politique très dure, ça va compliquer les choses. Ouais. Du coup, Pékin assez résistante, assez...
On peut comprendre. Voilà. Le président chinois, pourtant, en évoquant la crise mondiale, a dit à Davos à propos de la crise, je le cite, hein, « Lorsqu'on se retranche dans un port à chaque fois que l'ouragan menace, on ne traverse jamais l'océan. » C'est une belle formule poétique qui veut bien dire ce qu'elle veut dire, qui exprime une espèce de volonté d'aller de l'avant malgré les risques. Quels sont ces risques, alors ?
Les risques sont évidents, mais en même temps, il y a toute une ambiguïté. C'est vrai que Pékin certainement se questionne comme nous-mêmes. Nous nous questionnons sur la politique à venir de Monsieur Trump. Mais les Chinois et les Chinois aiment bien surtout avoir des partenaires stables, partenaires avec qui ils vont être d'accord ou avec qui ils ne vont pas être d'accord. Donc là, effectivement, c'est la grande inconnue, y compris pour les Chinois. Quel est l'objectif des Chinois ? En fait. La position de Trump les embête un petit peu dans la mesure où les États-Unis adoptent une position d'isolation. Mais en même temps, en rejetant les accords de libre-échange, les Américains donnent toutes les cartes du jeu de la mondialisation à la Chine, qui elle-même peut en profiter pour activer davantage ces accords de libre-échange, notamment dans la zone Asie-Pacifique, mais également prendre la place de l'Amérique dans le refus de l'Amérique de s'intégrer à la mondialisation.
Justement, vous avez évoqué tout à l'heure la bataille en faveur des questions environnementales, on parlait de croissance verte, on a parlé de pollution, vous avez parlé de réchauffement climatique. Est-ce que tous ces grands dossiers peuvent devenir un argument, je dirais, pour la Chine ou de la Chine pour rallier les nations?
Oui, c'est tout à fait. Hein. C'est ce deuxième volume de votre toute la question de présidente. C'est que si l'Amérique se comporte pas très raisonnablement, et ça va ouvrir le camp de espace pour la Chine.
Il y a une volonté de le faire.
Ça va vraiment, c'est comme tout à l'heure M. Big avait bien de dire, cette annulation de PPT, hein. Et le Pékin était, c'est un super gâteau pour Pékin, parce que Pékin était assez embêté par cette affaire, hein, ok? Et donc, voilà, sur tous les dossiers importants de notre temps, le climat, etc., si l'administration Trump se comporte mal, forcément, ça va renforcer le leadership, cette statue leadership de Pékin. Ça, c'est évident. Voilà.
Parce qu'un engagement en faveur de la lutte contre le réchauffement climatique que vous avez évoqué, ça coïncide avec les intérêts nationaux de la Chine.
C'est clair. Et moi, j'ai pu l'observer sur place de nombreuses fois, et notamment à l'occasion des Jeux Olympiques de Pékin en 2008, mais bien avant. Depuis 2004, il y a effectivement une volonté qui n'était pas encore affirmée par les médias chinois d'une façon flagrante, mais en tout cas de lutter effectivement non seulement contre le changement climatique, mais également en favorisant la biodiversité, enfin bref, tout ce qui concerne l'énergie verte. Donc qui est très à la mode en Chine, hein, et pas uniquement à Pékin ou à Shanghai, mais y compris, j'irais même, dans les campagnes. Donc l'écologie en Chine, ça marche bien, et on peut dire bravo. Et donc là encore, oui, pour, je dirais, arriver à ce rêve chinois qu'a promis le président chinois pour bientôt, de 2020, bien effectivement, on doit intégrer l'écologie.
Zhang Lun, est-ce que est-ce que la diaspora chinoise, j'aimerais bien évoquer la question de cette diaspora chinoise à travers le monde, est-ce qu'elle joue un rôle dans la perspective mondialiste de la Chine?
C'est évident, oui. C'est évident. C'est depuis l'ouverture, la réforme, l'ouverture, cette diaspora chinoise joue toujours un rôle très dynamique, très important dans le... Comment dire, dans ce rapport de la Chine avec le monde extérieur, via des échanges commerciaux et aussi d'investissements, etc. Si vous regardez la première phase d'investissement étranger que la Chine a reçu au début des années 80, etc., ce sont tous des investissements chinois, de diaspora. Donc, ce rôle, ça va continuer, accentué dans les années à venir. Bon, bien sûr, de la part de la diaspora chinoise, ils ont aussi de l'intérêt de renforcer ce lien. Voilà, donc, c'est évident.
Voilà. D'accord. Moi, la seconde question que je me pose par rapport à cette diaspora chinoise, qui est importante, hein, ça représente, je sais pas, 50, 60 millions de personnes dans le monde, à peu près.
Ça dépend de quelle région, mais ça, de chiffres.
Je connais particulièrement bien parce que j'ai fait ma thèse de doctorat sur ce sujet. Vous savez, les chiffres, comme on n'a pas toujours le droit des statistiques par rapport aux communautés, bon, c'est plusieurs dizaines, certainement 200 millions, sinon plus. Mais comme l'immigration chinoise, elle vient de 2000 ans, donc effectivement, ce sont les plus nombreux VRP du monde.
Mais est-ce que le profil de cette diaspora évolue au fil des générations? On dit qu'elle connectait au début la Chine au monde et qu'aujourd'hui elle met la Chine en phase avec la mondialisation. Qu'est-ce que vous pensez de cette phase-là?
En fait, les choses sont un peu décalées, un peu différentes. C'est la diaspora chinoise qui a permis l'ouverture de la Chine à l'époque de Deng et après. Et en retour, vous aviez ensuite, dans certaines villes, pas toutes, en tout cas en France, des communautés chinoises qui vivaient relativement en développement économique séparé, très très gentil, mais qui vivaient un petit peu entre elles. Et du coup, la modernité de la Chine a fait que ces communautés bougent. Donc c'est une sorte de brassage international. Mais il est vrai que les Chinois, qu'on appelle d'outre-mer en Chine, jouent un rôle important, avec maintenant les étudiants, les touristes, les hommes d'affaires, et les diplomates, dans les échanges internationaux.
Juste un mot de l'évolution du profil de la diaspora chinoise dans le monde.
C'est quelque chose qu'on observe très bien. Hein. Ouais. Si vous regardez bien les Chinois en France, à Paris. Et maintenant, il y a beaucoup plus de jeunes, des étudiants, aussi d'investissement, des affaires. Tout. C'est une communauté. Je pense qu'en France, c'est une des communautés qui grandissent le plus par rapport les autres. Hein. Et c'est assez différent que cette diaspora, autrefois, vient de certaines régions, comme par exemple Wenzhou, aussi, remonter encore plus loin, après la Première Guerre mondiale, etc. Et relativement homogène. Et maintenant, ça devient de plus en plus diversifié, vient de régions différentes. D'accord. Et maintenant, le niveau d'éducation augmente aussi. Mmh. Je pense qu'on peut assister, on peut imaginer, hein, dans les années à venir, c'est une communauté qui vont de plus en plus active, même pour la vie, dans la vie économique, sociale française.
D'accord, il nous reste assez peu de temps. Je veux quand même ne pas terminer cette conversation sans évoquer la montée en puissance de la Chine. Est-ce qu'elle va s'accompagner, Pierre Picard, vous êtes un spécialiste de ces questions, d'un renforcement de sa capacité militaire?
Oui, bien évidemment. Je crois qu'un grand pays, une grande nation ne peut pas s'affirmer sans avoir une armée qui soit à l'image de sa puissance économique, pour toutes sortes de raisons. Parce qu'effectivement, à partir du moment où on est grande puissance économique, on doit protéger ses routes commerciales, ses matières premières, on doit participer, ce que la Chine fait très bien, au casque bleu à l'ONU, et on doit effectivement aussi moderniser l'armée. On doit avoir des capacités de technologie numérique, des propres systèmes de guidance comme Beidou, qui concurrence le système américain, des satellites en orbite. Donc oui, la Chine est une grande puissance et va devenir une très grande puissance militaire.
Tout ça se met en place en ce moment même.
Oui, c'est pas nouveau, hein, ça s'est mis en place. La Chine programme, et ce qu'elle dit, généralement elle le fait, et même elle est en avant sur ses programmes. Dans tous ces programmes, oui, bien sûr, la Chine va devenir une très grande puissance militaire.
Bon, on n'a pas le temps d'en dire plus, malheureusement. J'aurais bien voulu quand même évoquer en quelques secondes le soft power, la culture chinoise, son patriotisme. Non, on n'a pas le temps d'en parler parce que c'est bientôt la fin de cette émission. Je vais vous remercier. Pardon de ne pas aborder cette question qui était très importante, la question
vraiment en deux mots, ouais. C'est dommage, mais en tout cas le soft power, il s'implante bien depuis quelques années parce que la Chine a décidé maintenant, comme les Russes d'ailleurs, de communiquer.
C'est bien, on n'en dira pas plus ce soir, tant pis. Merci à tous les deux. Pierre Picard, docteur en géopolitique à l'Université Paris 8. Je rappelle le titre d'un de vos livres, La Chine, menace militaire aux éditions Fabre. Et puis Zhang Lun, économiste sociologue. Je rappelle votre livre à vous, La vie intellectuelle en Chine depuis la mort de Mao.
C'est chez Fabre. Ça, c'est très ancien. Bientôt, il y aura des nouveaux.
Bon, alors, on vous réinvitera à ce moment-là. Merci à Eleonore Krenik qui a préparé cette émission, à Fabrice Viollet qui la réalise. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Bonsoir à tous. Dans quelques secondes, un nouveau journal sur Radio France Internationale.